voilà ce qu'on avait envie de vous poser comme question pour finir. Voilà, donc
on a un temps maintenant justement de questions-réponses, donc n'hésitez pas à rebondir sur ce qui vient d'être dit ou à apporter d'autres questions, d'autres points de vue. La parole est dans la salle.
Oui, alors c'est pas une question en soi, c'est. Je suis répondu par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, en prenant par exemple l'exemple du SDR. Vous nous dites, donc Dieu tend la main, tout comme nous, on peut tendre la main à un SDF. Mais vous n'avez pas posé la question, vous n'avez pas posé la question de pourquoi il refuse d'y aller. Moi, je serais là, je dirais, on ne lui tend pas la main, on lui tend une bière. Ça, enfin, moi, ça m'attire beaucoup plus. Vous parlez de nos imperfections. Mais, par exemple, on va prendre l'hypothèse d'un SDF qui a lu la Bible. Vous pouvez se dire, en lisant la Bible, l'Ancien Testament, mais il tue aussi à de très nombreuses imperfections. Les gens qu'il tue, lorsque, là, vous pouvez beaucoup mieux m'aider... Il met à l'épreuve la foi d'un homme qui a une famille, il y a un troupeau, il les tue. Je n'ai plus le nom de ce
genre.
C'est peut-être ça. Il fait en quelque sorte un pari avec Satan. Non, il ne se détournera pas de moi. Vous prenez le lecteur. Moi, je lis ça, mais. Qui est le plus méchant, là, dans les deux cas? Qui est celui qui est vraiment imparfait? Satan, vous pouvez dire Satan, il tente. Dieu sait à ça. Et c'est peut-être pour ça que les gens rejettent cette
hypothèse de Dieu. Ok, donc c'est peut-être la question qui est soulevée. Est-ce que Dieu il est totalement bon alors
c'est ça.
Derrière
est-ce que dans le fond, en allant contrairement à la définition classique de Dieu, est-ce que Dieu n'est pas mauvais? Le Dieu de la Bible.
Le Dieu de la Bible. Alors, effectivement, c'est une bonne question. Alors, comme vous faites allusion à Job, c'est une très, très intéressante situation, justement, pour ça. Parce qu'on voit que Dieu, il est... Donc, voilà, il y a un dialogue imaginaire ou pas entre Dieu et Satan. Et finalement, celui qui cause le mal, c'est toujours Satan, parce que Dieu lui met des limites. Et c'est un petit peu toujours ça. Dieu, il est souverain sur toute chose, ça veut dire qu'il contrôle toute chose. Et il est capable de mettre des limites. Donc le malheur qui atteint Job, c'est un malheur infligé, donc pas par Dieu, mais par son ennemi, auquel Dieu va mettre des limites, des autorisations, mais aussi des limites. Et je pense que c'est un peu ce qui peut nous rassurer, c'est que Dieu est plus fort justement que le mal, et c'est celui qui peut mettre justement des limites au mal. Alors après, pourquoi il n'empêche pas tous les maux de la terre? Hop. Ça c'est une autre question qui rejoint peut-être la question de demain, si Dieu existe, pourquoi le mal? Mais on peut déjà dire qu'il tient, il prend en compte finalement aussi la responsabilité qu'il a donnée à l'homme. Il ne viole pas toutes les lois qu'il laisse à l'homme. Quand il a donné la liberté à l'homme, il ne va pas maintenant l'empêcher à chaque fois que l'homme veut faire un acte mauvais. Alors ça peut paraître curieux, mais imaginons, il y a deux personnes à un bar qui se saoulent, il y en a un, il va prendre la voiture, il va rentrer chez lui, il va écraser quelqu'un. L'autre, il va rentrer chez lui sans écraser personne. Pourquoi il empêcherait seulement celui qui va écraser quelqu'un de se saouler? Il va dire, ah mais ça c'est pas juste, lui il a le droit de se saouler, moi j'ai pas le droit. Ouais mais toi tu vas tuer quelqu'un, ouais mais c'est pas fait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, si Dieu finalement maintenant contredit toutes les lois de liberté qu'il nous a données, on serait dans un monde hanté, quoi. Enfin, un des éléments de réponse, mais je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, sur la bonté de Dieu, pas forcément, mais je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
Oui. Une image que moi je donne souvent personnellement à ce genre de réflexion, si je me permets de rebondir là-dessus, si le bon Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a tout ce mal là sur terre, et pourquoi il nous laisse faire tout ce mal, quoi? Et en fait, je prends souvent l'exemple, on est tous à peu près étudiants ici, mais en fait, la vie, finalement, c'est un peu comme un partiel, en fait. C'est un partiel, comment on va faire un examen que le bon Dieu nous évalue enfin sur cette terre, sur notre vie terrestre, et savoir si nous allons être pris ou si nous, au contraire, nous serons repêchés, sinon, enfin, par péché, mais nous serons... Si nous avons failli, voilà, et la récompense sera clairement la joie de la vie éternelle. Si par exemple, à ton partiel, si tu décides, arrive, que je ne fais rien, je rentre plus dans tout ça, bah, le surveillant, il ne va pas te dire de faire... Après tout, c'est ta liberté de ne pas rendre ta copie.
Pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, moi je suis pas entièrement d'accord avec ça, parce que quand on arrive à un examen, tout le monde a le même sujet, tout le monde a suivi le même cursus. Quand on est ici, on n'a pas tous les mêmes dons, la même famille, le même contexte. C'est ça qui différencie. Donc que Dieu choisisse en fonction de ce que tu as fait, ce serait assez étrange s'il ne tient pas compte justement de tout ce qui t'entoure. Une personne très riche pourra faire du bien, une personne qui a des difficultés dans sa famille pourra être tentée par le mal. Donc c'est aussi cette notion de justice, de bonté, on va dire, de Dieu. Enfin, je sais pas si vous...
Ouais, mais c'est intéressant là, l'illustration, j'aime bien, seulement les critères de Dieu pour l'examen, c'est pas la moyenne, c'est 20 sur 20, quoi. Puisque si on a dit Dieu est parfait, il accepte dans sa présence que des gens qui sont parfaits. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Et si on complète l'illustration, c'est comme si au lieu de passer l'examen, c'était le premier de la classe qui passait l'examen, il obtenait le 20 sur 20. Au nom de toute la classe, quoi. C'est un peu le sens de la vie de Jésus. Lui, il a réussi à vivre au top niveau, et finalement tout son mérite, toute sa bonne note en fait qu'il a eue sur sa vie, il nous la donne si nous acceptons sa main tendue, encore une fois.
D'accord. Une question, je trouve pas de réponse. Je n'accepte pas Jésus dans mon cœur, mais en revanche je suis quelqu'un de, je pense, bon, j'aime les autres, je ne provoque pas de tort à autrui, je serai puni.
Ben, est-ce que vous avez 20 sur 20?
Personne ne l'a.
Voilà, personne ne l'a, quoi. Donc vous serez... voilà, je pense que le truc, c'est justement ça. Dieu, c'est pas... Même son amour ne change pas sa nature. Voilà, c'est pas qu'il va dire, ah bah tout d'un coup, j'aime vos péchés mignons. Il n'y a rien de mignon dans le péché pour Dieu. C'est soit t'es digne d'être dans ma présence, soit tu l'es pas. Et alors c'est mieux d'avoir 15 sur 20 que 5 sur 20, mais ça suffit toujours pas.
Et je pense qu'il y a un autre aspect aussi, c'est que on peut parler de la vie éternelle en ces termes-là, mais on peut aussi en parler en termes d'une relation avec Dieu. Donc, quand on meurt, on a l'opportunité de passer l'éternité avec Dieu, ou pas. Et si sur Terre, on n'a eu aucun désir de connaître Dieu, de connaître Jésus, pourquoi est-ce qu'on aura un désir de passer l'éternité avec Dieu? Je pense que l'éternité, c'est quelque part aussi le prolongement de nos décisions ici. Est-ce qu'on a envie de connaître ce Dieu? Est-ce qu'on a envie de lui ressembler, d'être parfait selon ses standards à lui, ou pas?
Le problème dans cette façon de penser, c'est que si on suit donc la doctrine, c'est qu'on n'a pas le choix. Parce que je ne vais pas finir. Sinon, si je ne finis pas avec Dieu, je finis avec l'autre. C'est en bas. Et je risque de souffrir. Ça pose des problèmes. Et on n'a pas le choix. Et Dieu nous donne la liberté ou pas de suivre ses lois, plus ou moins d'ailleurs. Puisque théoriquement, après, même les chrétiens ensemble ne sont pas d'accord sur qu'est-ce qu'on doit suivre. Est-ce que je dois être 20 sur 20, ou est-ce que si je suis à 15 sur 20 mais que je crois fermement à la résurrection de Jésus, je serai sauvé? Il faut être saint ou pas? Est-ce qu'il faut être 20 sur 20 obligatoirement? Est-ce que tout le monde se sent 20 sur 20 ici?
Non, je pense que...
On a des volontaires ici.
Je pense que c'est justement le message de, qui est transparent aussi dans le chant, de quelle grâce surprenante qui a de la voix de quelqu'un qui a sauvé un misérable comme moi. Voilà, personne n'a 20 sur 20, mais la grâce est là, quoi. Et après, oui, on a le choix. On a le choix d'accepter ou de refuser. Un auteur a écrit, finalement, il y a deux personnes, deux types de personnes sur la terre. Il y a des personnes qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, et il y a des personnes à qui Dieu dit que ta volonté soit faite. Et on a le choix de quelle catégorie de personnes on veut être. Mais si on décide d'en faire qu'à notre tête, ben à un moment donné, voilà, on est responsable de ce choix-là, quoi. Oui.
Mais il y a des personnes sur Terre ou dans l'histoire qui n'ont pas pu avoir ce choix. Parce que, prenons une personne venant du tribu amazonienne qui n'a aucune connaissance de la Bible et de l'histoire du Christ. Comment pour avoir cette possibilité de choix, c'est-à-dire entre guillemets qu'ils sont foutus et qu'on leur a pas proposé.
Je pense qu'il faut
redire
la question.
Et donc, il y a une sorte d'inégalité entre les hommes.
Oui, tu veux répéter.
Donc, je répète juste la question pour ceux qui sont au fond. La question, c'est qu'en est-il de tous ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre parler de Jésus, qui habitent peut-être dans des endroits reculés du monde? Eux, est-ce qu'ils ont eu le choix, réellement? Ben, j'ai envie de dire, une des premières choses, c'est que Dieu n'est pas limité dans les manières qu'il a de se révéler. Il l'a fait au travers notamment de la Bible, il l'a fait au travers de Jésus. Il l'a fait au travers des chrétiens, il l'a fait au travers de mille manières, mais il le fait aussi des fois directement vers les gens. Et j'ai entendu des foules de témoignages, par exemple, de musulmans qui vivent dans des contrées où il n'y a aucun chrétien, et ils ont vu des rêves de Jésus, clairement. Et ils ont vu l'image de Jésus sans avoir jamais entendu parler de Jésus. Et on croit en un Dieu qui est tout puissant, qui n'a pas besoin des humains pour se révéler, qui est au-delà de tout ça. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions encore, hein?
Juste sur la notion de perfection de Dieu, je ne suis pas expert de la Bible du tout, mais dans la Bible, il me semble qu'il y a des événements où Dieu tue beaucoup de gens. J'ai l'exemple de Sodome et Gomorre en tête. C'est un peu radical comme solution. Et je ne trouve pas que ce soit, enfin, je trouve pas que ce soit un caractère de perfection que de... pas un génocide, mais de raser une ville. Alors, peut-être il y a une explication. Je ne sais pas, j'espère.
Donc la question, c'est est-ce que Dieu est vraiment bon, sachant que dans certaines situations, il a ordonné la destruction d'une ville et la mort de beaucoup de gens? Je vais commencer par répondre et je laisserai compléter. Parce que j'ai qu'une partie de la réponse. Pour moi, c'est Dieu est amour, mais il est aussi justice. Et clairement, quand il intervient et qu'il décide que certaines personnes doivent mourir, c'est qu'il y a des raisons et que c'est des personnes qui ont fait des choses atroces. J'aime bien comparer ça avec notre attitude par rapport aux États-Unis. On se plaint toujours des États-Unis, en tout cas en Suisse, je ne sais pas comment c'est en France. On se plaint vis-à-vis des États-Unis quant à l'intervention au Moyen-Orient. S'ils n'interviennent pas, on dit « mais qu'est-ce qu'ils font les États-Unis, c'est la catastrophe là-bas ». S'ils interviennent, on dit « mais pourquoi ils se mêlent de tout ça, ce n'est pas leurs affaires ». Et je pense que vis-à-vis de Dieu, on a parfois la même attitude. On se plaint, il y a tellement de souffrance, pourquoi Dieu ne fait rien? Regarde ces gens horribles, ces génocides, pourquoi Dieu ne fait rien? Et le jour où Dieu intervient, on se plaint. Comment Dieu se permet-il d'ôter la vie? Mais si Dieu est le créateur de la vie, c'est normal qu'il ait le droit d'ôter la vie. Je pense, c'est ma réponse. Après, il reste des questions. Je ne sais pas si tu veux compléter.
Oui, il reste des questions. Moi, je pense que c'est une très bonne illustration. Après, il ne faut pas oublier aussi que Dieu nous dépasse largement. Il a des ressources illimitées. C'est-à-dire que ces personnes qui sont décédées ont... La Bible ne se prononce pas sur leur sort, c'est-à-dire que Dieu a aussi la possibilité de récompenser éternellement quelqu'un qui aurait été mis à mort injustement, par exemple. Donc on ne sait pas, on dit voilà, c'est pas juste, ils sont morts avant les autres. Déjà on va tous mourir, mais eux ils sont morts avant les autres, mais qu'est-ce qui leur est arrivé après? Voilà, on ne sait pas, un innocent qui est tué là comme ça dans la rue, on dit ouais, qu'est-ce que Dieu a fait, mais on ne sait pas tout le poids de récompense qu'il est capable de lui offrir une fois cette vie passée.
Et soyez sûr que il y aura encore plus d'éléments de réponse qui arriveront demain, parce que le thème c'est si Dieu existe, pourquoi le mal. Donc là, il y a des petits éléments de réponse qui sont un peu pris au dépourvu, mais ils ont aussi préparé un truc pour demain pour approfondir tout ça. Est-ce que vous avez encore d'autres questions pour répondre?
Oui, moi c'était tout à l'heure vous parliez des préférences, on va dire d'un standard pour être avec Dieu au paradis plus tard. Mais moi je voulais revenir sur justement cette notion de les critères pour être accepté auprès de Dieu. Comment peut-on définir les critères, sachant que plusieurs religions existent et qu'une personne qui va suivre une autre religion, une autre branche, va peut-être appliquer les critères qu'on lui a enseignés depuis peut-être sa naissance ou en tout cas une religion dans laquelle il se reconnaît, et cette personne pour autant fera le bien mais ne suivra pas les mêmes critères qui ont été inculqués notamment par la Bible, si on prend l'exemple d'un musulman ou d'une personne juive. Donc comment justement Dieu peut-il définir, peut-il arriver à discerner les personnes qui ont suivi les mauvais critères, mais qui ont été, enfin peut-il en tout cas les discerner, ceux qui ont suivi les bons critères, ceux qui ne les ont pas bien suivis, mais qui ont quand même eu une vie, on va dire, tournée vers les autres, assez ouverte.
Alors effectivement, comment Dieu va juger? Alors a-t-il des critères différents aussi selon les personnes, leur religion, leur contexte? Alors c'est sûr que il y a des choses qui sont dans sa loi, des choses qui l'édicte, notamment bon, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même, toute une série de critères qui sont assez précis, qui se retrouvent peut-être pas partout, mais quand bien même on essaierait de tous les réaliser, on se rendrait compte qu'à la fin, on n'était pas toujours au top. Donc encore une fois, c'est une question plus de est-ce qu'on va accepter le joker ou est-ce qu'on va le refuser, quoi. Parce que en jouant nous-mêmes, on va jamais gagner la partie. Donc on a besoin d'un bonus, quoi. On a besoin d'un coup de pouce. Quelle que soit finalement la voie qu'on suit, on va arriver à une impasse et on aura besoin d'un coup de pouce. Donc je dirais la question est la même quel que soit l'environnement dans lequel on évolue. C'est est-ce que face à l'imperfection du respect de ces critères, on utilise la solution que Dieu lui-même propose.